Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. Et comme tous les dimanches soirs de 22h à 23h, c'est l'heure de la causerie. Causerie toujours confinée, évidemment. Donc causerie enregistrée samedi 2 janvier à 17h et quelques petites brouettes. Et ce soir, dans les studios, pas studios, mais autour de nos ordinateurs respectifs, nous avons Clara.
Hello.
Nous avons MK.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Et nous avons Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Et donc, avant de commencer cette causerie, en tout cas à causer vraiment dans le dur, quoi, dans le sujet, tout ça, on va vous rappeler comment nous joindre, évidemment. C'est toujours lacauseriecanu@gmail.com. La causerie canu, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Et évidemment, vous retrouverez le podcast de cette émission et de toutes les autres avant sur le blog de l'émission. C'est à blogs, donc au pluriel, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, musicaux, etc., etc. Vous tapez la causerie Radio Canu et vous devriez nous retrouver.
Oui.
Voilà.
Mais bon, tu peux reprendre ta respiration.
Ok, allez, 1:22 pour l'intro, on y va maintenant. C'est donc Fab qui ouvre la session avec de la technique, de la technologie, tout ça, tout ça.
Plutôt de la technologie que de la technique, d'ailleurs.
Oh, excusez-moi.
Non, mais voilà. Et comme on est chronométré, je vais essayer de ne pas faire trop de temps, a priori, ce soir. Il faut dire le temps qu'on met pour faire les choses. Alors, moi, je voulais vous parler, en fait, des implants neuronaux et des décrypteurs neuronaux. Alors, quand on le dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ces deux aspects-là, en fait, ils relèvent de ce qu'on appelle les neurotechnologies, d'où la notion de technologie. Sur le site de Trust My Science, ils en donnent une définition qui est assez intéressante. La neurotechnologie implique le fait de connecter le cerveau humain aux machines, ordinateurs ou téléphones portables. Bien que les interfaces cerveau-ordinateur, qu'on appelle les BCI, soient au cœur de la neurotechnologie, elles sont plus largement définies comme une technologie capable de collecter, d'interpréter, de déduire ou de modifier les informations générées par n'importe quelle partie du système nerveux.
Ok.
Voilà, c'est clair ?
Ok.
En gros...
Oui, on va la réécouter, l'émission, mais c'est pas grave.
Non, mais en gros, pour faire simple, quand vous pensez, vous avez de toute façon un influx nerveux qui va se propager, soit à l'intérieur de votre cerveau, soit vers un de vos membres, parce que voilà, tout simplement, et bien la neurotechnologie, c'est la capacité à capter cet influx et à le décrypter et à le transformer ou à l'utiliser pour diriger quelque chose, par exemple.
Par exemple, voilà. j'ai une prothèse de bras.
Ouais.
La liaison qui fait que mon cerveau va dire à mon bras d'attraper quelque chose
va faire bouger la main.
Va faire bouger la main pour l'attraper.
La main robotique. Voilà, par exemple.
Okay.
Voilà, tout typiquement. Donc, on le voit, l'idée des neurotechnologies, c'est d'interfacer directement les objets à nos cerveaux. Pouvoir, par exemple, bah, c'était un peu ce que tu disais,
Ah, ok.
piloter un robot qui suppléerait une personne tétraplégique. Ou un avion de combat, hein, pour un pilote à distance. Voilà. Donc on voit que ça va dans le positif et aussi dans le très négatif. C'est justement en fait ce grand écart entre les bienfaits réels et l'utilisation militarisée de ces sciences qui interroge profondément aujourd'hui. D'ailleurs, on voit que ces technologies, elles sont développées aujourd'hui principalement pour pallier les maladies mentales et neurologiques. Sauf que, au-delà de la santé, elles pourraient bientôt être utilisées dans l'éducation, les jeux, le divertissement, les transports et l'armée. Voilà. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose d'anodin dans nos vies et que ces recherches-là, elles ont un poids assez énorme sur ce que sera ou pourrait être l'avenir demain. Alors il faut savoir qu'il y a des recherches qui partent dans tous les sens en ce moment en neurotechnologie, sous l'impulsion de multinationales et de mécènes. Alors les multinationales et les mécènes, c'est Alphabet, maison mère de
Google? Non,
Google,
si.
oui, la maison mère de Google, Elon Musk, qu'on retrouve à peu près partout, hein. Donc, Elon Musk, voilà, IBM, voilà, Huawei, le
Oui.
géant chinois, Samsung, et étrangement, plusieurs stars du cinéma hollywoodien qui ont créé une espèce de bourse en commun pour financer les neurotechnologies, parce qu'ils en sont passionnés. Alors dedans, vous retrouvez des acteurs comme George Clooney, des gens comme Leonardo DiCaprio, qui d'un côté vous fait de la pub pour l'écologie et de l'autre côté finance les neurotechnologies. On va savoir. Voilà, bref, voilà. Il y a aussi Dassault Technologies, hein, et là c'est pour l'aspect plus militarisé, et beaucoup d'entreprises et de start-up qui sont beaucoup axées pour la plupart, à 50% sur le militaire. Voilà, donc on voit quand même que l'application militarisée, elle est quand même le moteur, malheureusement, comme souvent dans la technologie, de l'avancée de ces technologies.
Ouais, je fais une coupure qui n'a rien à voir, mais je me souviens d'avoir vu un reportage sur la lunette, la longue vue. Au départ, c'était développé pour l'armée.
Oui, tout à fait.
Donc en fait, finalement, mais je pense que oui, l'armée, en fait, parce que c'est un gros budget et que ça sert tous les États, forcément, ils vont chercher à tirer leur profit sur les choses, quoi.
C'est ça, ils ont du fric surtout. Parce
Oui,
que
il y
en
a de
fait,
l'intérêt.
l'armée finance presque tout et puis ça s'accapare en fait les technologies qui
Forcément.
ensuite, des années plus tard, arrivent au public.
C'est
C'était le
ça.
cas d'Internet, par exemple,
Exactement.
pour la mémoire. Donc les recherches, en fait, elles sont lancées en ce moment tous azimuts dans le but de trouver les meilleures interfaces possibles. Soit c'est une connexion physique, hein, via une puce qu'on implante dans le cerveau, soit c'est un casque de réception des ondes cérébrales, soit c'est un mélange des deux, soit ça va être ce qu'on ne connaît pas encore. Il y a des gens qui parlent par exemple de gel neuronal, c'est-à-dire des gels qui contiennent des nanoparticules et des nanotechnologies que vous mettriez sur votre cerveau et qui interféreraient. Donc il y a tout un tas d'idées. Il faut quand même se rappeler, hein, pour mémoire, qu'aujourd'hui on sait déjà mesurer les ondes cérébrales. Ça s'appelle un électroencéphalogramme. Voilà, donc c'est pas nouveau, hein, de savoir si le cerveau il fonctionne ou pas. Par contre, ce qu'on ne savait pas faire, c'était les décrypter. Donc en fait, la nanotechnologie passe le pas. C'est-à-dire on passe du fait de les capter au fait de les décrypter. Mais certains rêvent déjà d'aller plus loin. Il y a des gens qui rêvent de décorporation par sauvegarde des données de l'individu. C'est-à-dire, ben oui, parce que finalement, votre cerveau, c'est quoi à part un gros disque dur? Et en fait, c'est ça, vous avez plein de données à l'intérieur de votre cerveau qui font ce que vous êtes et on pourrait pourquoi pas les télécharger. Création d'un double numérique ou cybernétique de n'importe quelle personne. C'est-à-dire, on met un de vos doubles dans un ordinateur, par exemple. Et voilà, mais le problème.
Mais est-ce que l'ordinateur prendrait vie derrière?
Et bien, la question, c'est ça. C'est que le problème, c'est que qu'est-ce qui fait la vie? Donc, je vais y revenir après, mais vous voyez, c'est cette fois. Et aussi, l'idée d'influencer les individus par impulsion directe vers le cerveau, donc bah, via l'influence neuronale, comme ça s'appelle. Alors, ça, c'est mis en avant notamment par deux startups en biotechnologie qui donnent cet exemple pour les violeurs. En disant, bah, ça permettrait comme ça de mettre une puce aux personnes qui ont commis un viol et elles ne recommenceront jamais de leur vie par des implants, par des influences. Alors le problème, bah, c'est que ça pose là des questions purement éthiques. C'est est-ce qu'on doit être puni toute sa vie pour ce que l'on a fait? Est-ce que l'on peut pas se repentir? Est-ce que l'on peut changer ou pas? Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises sur la table par ces technologies-là. Et c'est là qu'on peut noter qu'il y a vraiment un sérieux problème. Il n'y a aujourd'hui aucun texte éthique qui n'existe au niveau international pour guider les recherches et leurs buts. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question. Elle a été soulevée deux ou trois fois à l'ONU, mais c'est jamais allé très très loin. Et ce sont dans les États, en fait, où il y a eu parfois des discussions, mais elles ont généralement été avortées parce qu'on estimait que c'était trop tôt, qu'on n'en était pas là, que ceci, que cela. Sauf qu'on n'est plus dans la science-fiction. On va être clair, aujourd'hui, ça existe et ça fonctionne. Il suffit de regarder les différentes vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. Vous trouverez très facilement des gens qui contrôlent des prothèses à distance, qui contrôlent des voitures à distance, qui contrôlent des jeux vidéo à distance avec leur cerveau. On n'est plus dans l'ordre de la science-fiction, on est dans l'ordre du réel et du présent. Et il est temps de réfléchir et de penser notre présent. Alors, moi, je vais être clair, hein, il faut fixer des limites. Mais c'est toujours pareil, c'est comment on fixe les limites. Parce que ça, c'est toujours compliqué. L'existence de textes ou autres, ça garantira jamais qu'il n'y ait pas de dérive. Par contre, le fait de le mettre sur la table et d'en discuter collectivement et discuter les tenants et aboutissants, ça permet à ce que la majorité des gens puissent s'interroger à titre individuel sur les limites qu'ils envisagent pour ces technologies, mais aussi surtout pour eux. Parce que c'est des choses qui vont arriver jusqu'à nous dans très peu de temps. Un exemple concret, Apple nous dit déjà que sa montre connectée, demain, pourra être en précognitif sur ce que vous voulez faire. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, elle pourrait aller plus vite que vous. Mais l'idée, c'est simplement que vous avez une envie d'avoir faim, par exemple. La montre, elle va repérer que votre cerveau commence à se dire « Tiens, je vais avoir faim », alors que vous, ça n'est pas encore devenu une idée, pour vous proposer, par exemple, de vous connecter à un fournisseur de nourriture. Oh, oui. Oui, ouais. Voilà. On n'est plus dans la science-fiction. Hein. Ces technologies, elles sont vraiment là, elles sont présentes. On a pu voir récemment une personne tétraplégique commander un robot. Donc c'est en fait c'est une sorte de robot bras, je ne savais pas comment l'appeler, mais je vous cherchais sur internet, vous le trouverez. Et en fait c'est avec son cerveau. Alors certes ça allait très lentement, mais le robot il va, il prend un verre, il sert un verre d'eau, et le verre est récupéré par le bras et amène le verre jusqu'à la bouche de la personne. Alors effectivement on peut se dire que c'est une extrêmement grande avancée et que c'est très bien pour cette personne-là et que c'est très bien pour les personnes qui sont soumises au handicap. Sauf que ça va très vite. La façon dont se développent ces interfaçages et se développent ces technologies. Et la vitesse à laquelle les sciences de l'intelligence artificielle et la rapidité de calcul des ordinateurs, ça nous laisse à penser que nous allons avoir un bond technologique majeur dans les neurotechnologies tous les 2 à 3 ans. Ça en fait une des technologies qui évolue le plus vite aujourd'hui au niveau international avec les biotechnologies de type génétique, comme pour les vaccins ou autres dont on en a déjà parlé dans l'émission. Donc il faut donc s'interroger, mais encore, il ne faut pas le faire de façon uniquement négative, en mode « rejetons tout ça, ça ne sert à rien ». On voit bien, par exemple, dans le cas de la personne atteinte de handicap, que ça a une utilité. Il y a aussi des systèmes qui corrigent la maladie de Parkinson, par exemple. Donc ce serait compliqué de dire « bah non, il vaut mieux que les gens ils aient Parkinson ». Vous voyez, c'est, voilà. Mais il est indéniable en fait que les neurosciences et les neurotechnologies vont apporter du mieux pour des millions de personnes dans le monde, mais ça peut aussi apporter du pire aussi pour des millions de personnes dans le monde. Donc, il est important de réfléchir, bah, quelles sont les limites? Est-ce que, par exemple, dans le domaine du soin, on veut poser des limites ou pas? Est-ce qu'on est d'accord pour que ça ait lieu et que ça existe concrètement? Et qu'est-ce que ça entraîne d'un point de vue éthique? Et puis, de la même façon, est-ce qu'on est d'accord pour que ça serve à piloter un drone à distance pour bombarder des populations? Vous voyez, c'est ce genre de questions qui vont se poser là aujourd'hui. Donc, il faut bien réfléchir au fait que si ça peut venir suppléer les défaillances neuronales, ça peut aussi servir malheureusement, à faire des choses qui ne sont pas terribles. Je vais balayer des aspects qui interrogent. Donc déjà, on va parler des technologies dites invasives. Alors invasive, ça veut dire qu'on rentre quelque chose dans votre corps. Je vous renverrai à l'excellente émission faite par Clara sur les dispositifs médicaux.
Mais quelle lèche, je suis là.
C'est incroyable. C'est gentil, en tout cas. C'est gentil. Non, merci.
C'est vrai, elle était très bien. Mais en fait, vous savez que donc dans la causerie, on est assez clair que ce qui s'implante doit être le plus contrôlé possible. C'était un peu la position qu'on avait.
Au même titre que les médicaments, etc.
Au même titre que les médicaments et tout le reste. Or, pour l'heure, en fait, les implants qu'on a, les puces, les capteurs ou autres, qui sont mis en place, ils ne relèvent pas de la médecine, selon les normes actuelles. Ce sont considérés comme des piercings. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas tout à fait pareil.
Non,
quand même.
C'est pas pareil, non.
On parle de puces qu'on relie au cerveau, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est un peu étrange de se dire c'est un piercing. Bon, il va un peu loin, le piercing, mais bon. Oui.
Ouais. Il y a profondément là, quoi. Il y a un clou, en fait.
C'est ça. Et là, on voit bien le problème. On risque de se retrouver avec les mêmes problèmes que pour les implants en général. C'est-à-dire qu'en fait, on lance quelque chose sans l'encadrer d'un point de vue médical, sans demander à ce que soit prouvée l'innocuité. Et on risque de se retrouver avec des gens qui vont faire des allergies, qui vont avoir des problématiques, mais là, au niveau, par exemple, de la dure mère, c'est-à-dire au niveau de la paroi du cerveau. Donc, c'est un peu compliqué. Alors déjà que pour les personnes qui en ont en dehors de la dure mère, c'est très compliqué. On laisse imaginer ce que ça peut donner. Alors oui, cela a permis de rendre la motricité à des personnes paralysées, mais doit-on pour autant nous priver de la sécurité sanitaire? Voilà, ça, c'est une vraie bonne question éthique. Et puis après, on a les technologies dites d'appui et de stockage. Alors, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Ces technologies, c'est celles qui font donc une interface entre le cerveau et la machine. D'accord? Donc, de simples outils de contrôle, hein, comme une manette de jeu, par exemple, vidéo. Il y a notamment Nintendo qui travaille aujourd'hui sur un gant qui prendrait vos influx nerveux des doigts pour, au lieu que vous appuyez sur la manette, en fait, eh ben, vous jouerez en mettant simplement le gant. Vous voyez, par exemple, à l'outil d'interfaçage avec l'esprit. Hein, certains parlent d'accélérer nos capacités cognitives, de stocker notre mémoire, etc., etc. Aucune pensée éthique aujourd'hui n'a été posée. Est-ce que c'est bien ou pas de le faire? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Alors, oui, vas-y.
Bah, surtout que tu as quand même des sacrées différences. Autant, alors, franchement, honnêtement, en tant qu'un peu gamer ou autre, je trouve qu'un gant pour jouer à la console, tu vois, il y a un côté où je me dis, ouh, ça peut être carrément sympa. Mais à côté de ça, l'autre exemple que tu donnais, on est dans une autre utilisation, encore une fois, quoi. Enfin, c'est pas du tout les mêmes enjeux, je trouve, quoi.
Eh bah, tu fais une très bonne transition.
Ah, pardon. Okay.
Parce que, non, mais, ouais, mais pas, t'excuses pas, tant mieux. Créer un double numérique d'une personne, ok, mais ce double aura-t-il des sentiments, de l'empathie? Et qu'est-ce qui fait la vie? Est-ce que c'est le fait d'avoir un corps ou le fait d'avoir des savoirs et des sentiments? Et finalement, quand l'original de ce double meurt, est-ce qu'on doit effacer le double? Vous voyez, ça peut paraître comme ça des questions très métaphysiques, sauf qu'en réalité, c'est des questions qu'il faut qu'on commence à se poser, parce que le stockage en fait du double, il y a des scientifiques qui estiment que d'ici 15 à 20 ans, ce sera faisable. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être capter votre mémoire et la stocker. Sauf que le problème, bah, c'est que si on ne pense pas en amont des règles éthiques, on risque de se retrouver en face de choses qui ne sont pas très, très joyeuses. De la même façon, on sait que nos cerveaux sont sensibles à des influences via des ondes données et ciblées. On sait par exemple que bah, on peut calmer un bébé qui pleure avec aujourd'hui certaines ondes envoyées en influx lumineux. Voilà. On sait que ça fonctionne. Donc cela, ça intéresse fortement le marketing en particulier. Vous voyez un petit peu le truc. Et le management aussi.
Ah bah oui.
Hein? Donc on voit quand même que ça pose quand même des petites questions. Ah, voilà. Mais influencer une personne, ce n'est pas finalement la priver de son libre arbitre, de sa liberté? Ben si, quelque part. Et est-ce que ce n'est pas pire? Est-ce que ce n'est pas pire finalement de faire ça que de l'obliger par un contrat de travail? Vous voyez, c'est des règles éthiques, mais c'est des règles auxquelles il faut se poser.
Bah, t'évites le conflit par contre.
Bah oui, pas de conflit.
Que alors, je vais être docile.
Même si on sait qu'une bonne partie de la population n'est pas sensible à ce type d'influence, ou alors très faiblement, est-ce que cela suffira à nous prémunir d'un risque de dérive, de contrôle des masses? Vous voyez, c'est des vraies questions éthiques. Et je n'ai pas de réponse hein, là ce soir, j'ouvre juste le grand livre de la réflexion éthique ce soir. Voilà. Mais je n'ai pas de réponse personnelle, sauf que voilà. Donc, règlement ok, mais surtout pour moi, partage des connaissances. Il est évident hein, qu'il faut sans doute se poser un cadre légal et juridique autour des neurotechnologies. Moi, je pense qu'on ne pourra pas y échapper dans une société étatique, de toute façon. Comme on a pu le faire autour du médicament, de ce que l'on mange ou d'autres choses, hein, même de nos fringues, de tout, il y a des normes, il y a des règles. Mais cela, ça ne suffira pas. Il faut que les enjeux soient compris et connus du plus grand nombre pour qu'un avis éclairé, mais surtout conscient, soit possible. Parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, trop de recherches se font dans l'ombre des start-up et ne sont pas mises sur la place publique. Or, elle relève de l'intégrité de ce qui fait de nous des êtres humains. Parce que c'est ça que ça touche aujourd'hui. Nous devons donc exiger que les sujets de recherche soient connus. Nous devons pouvoir nous y intéresser, les comprendre et comprendre les enjeux et les risques. Nous devons interroger face à notre éthique personnelle tous ces sujets. Puis, dans le partage avec d'autres. C'est-à-dire qu'on doit en débattre, si vous préférez. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui, mais le débat, c'est important. Il faut débattre de ces questions. Encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de dire que tout doit être rejeté et interdit, parce que je pense qu'effectivement, dans l'ensemble de ces technologies, il y a des choses qui sont positives. Mais bien que la science ne se suffit pas à elle-même, elle doit être entourée d'éthique et de politique. Elle doit être au service des humains et pas contre les humains. Elle doit être orientée pour mieux être et ne pas être orientée pour le profit. Oui. Elle doit être orientée pour le mieux-être des humains, pas pour le profit. Voilà, c'est dans le cas des neurotechnologies, les mêmes luttes finalement que pour tout, faire de l'humain le sujet central. Voilà, c'était mon ouverture à réfléchir.
Une belle ouverture.
Vous avez 2 heures. Non,
sortez une page blanche, vous avez 2 heures. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Ben, si. On est toujours dans ce truc et que je trouve que l'époque qu'on vit en ce moment autour des vaccins, machin, je trouve que c'est exactement un reflet finalement aussi de ce sujet-là. C'est qu'il ne faut pas être dans un rejet basique, en fait. Enfin, je trouve que ça ne sert à rien, mais ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas basé sur de la connaissance ou des trucs comme ça. C'est juste du rejet, quoi. Un genre un peu mode ludite où on cassait les outils industriels. Sauf que bon, moi je suis toujours sur la technologie, je suis toujours partagé entre effectivement ce bienfait. Parce que quelqu'un qui a perdu un bras, par exemple, son bras il reviendra pas, quoi. Donc si on peut l'aider à avoir une autonomie, etc., bah, franchement, enfin, c'est génial, quoi. Si on peut permettre à quelqu'un qui a plein de tremblements, de Parkinson, de plus en avoir, mais c'est génial. Mais à côté de ça, effectivement, si c'est pour qu'un patron, un État ou je ne sais pas quoi contrôle nos cerveaux, bah non, là, on n'est plus du tout pareil, quoi.
C'est ça.
Mais et que oui, en fait, il faut de la nuance. Il y a des sujets qui sont assez différents. Et sur le par rapport à l'émission qu'avait fait, enfin qu'on avait fait avec Lara, etc. Quand on voit déjà que des dispositifs qu'on implante quand même dans le corps ne sont pas traités comme des médicaments, bah là, tu te dis oui, effectivement. Enfin, s'ils refont la même chose que par exemple les implants Essure, c'est-à-dire foutre de l'étain, je me dis ils sont capables parce que ça leur coûtera sûrement moins cher. Ils trouveront bien une raison de foutre de la merde dans leur truc, bah on va foutre de l'étain dans le cerveau direct. Donc c'est ouais, il y a beaucoup de questions et enfin c'est enfin ouais, c'est j'ai pas des réponses non plus, mais
Non, mais ça soulève. Et
c'est hyper intéressant, quoi.
c'est pour ça qu'en fait, je trouve qu'il ne faut pas, faut pas hésiter à se saisir de ces questions-là, à aller faire des recherches, aller chercher ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'ai été très surpris en préparant le sujet. J'ai découvert des choses que je n'imaginais même pas. Hein. Par exemple, que l'armée française et américaine sont à deux doigts d'avoir des drones pilotés, par un simple casque, quoi. Je me suis dit, mais c'est quand même fou, on en est là, quoi. Et on n'est plus juste à. On essaye, on en est à. On va le mettre en place. Vous voyez, il y a Boeing aussi qui veut proposer des avions sans pilote où le pilote serait au sol, vous voyez, par exemple. Donc, ça fait partie de tout un tas de choses qui sont, à mon avis, très dangereuses parce que si elles sont faites sans être encadrées, mais qui sont aussi présentes aujourd'hui et qu'on ne peut pas balayer d'un bras en disant, bah non, on s'en fout, quoi, parce que ça fait partie de notre vie de demain. Et il faut s'en préoccuper, en fait.
Oui,
Voilà.
après, j'allais dire aussi, il faut pas oublier que l'armée, comme tu disais tout à l'heure, est un grand financeur, un peu comme ces grandes entreprises capitalistes. C'est eux qui ont l'argent. Tant que les États, en fait, n'investissent pas dans tout ce qui était. Bah, on en parle là, la dernière fois sur les vaccins. Tant que c'est aux mains des grands groupes, finalement, c'est eux qui vont vouloir diriger et donner un peu le sens de ce qu'ils veulent. Et puis l'armée, c'est leur.
Oh, on a perdu MK.
On a perdu MK. Bon, eh
Et
ben, moi je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on retrouvera MK juste après.
faisons ça.
C'est les aléas de la technologie.
À tout à l'heure.
Vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. On vient de s'écouter Bastiung avec Niamoki Niamaki. Je pense que je le dis bien, mais je ne suis pas sûr. Donc vous m'excuserez. Normalement, ça a dû vous donner envie de vous lever et de danser. C'était le but du titre, voilà. Et juste avant, on a eu une petite coupure technique. Et MK, tu voulais ajouter quelque chose par rapport au
sujet? Oui, vraiment désolé. Bah, ça, c'est les aléas du direct, même si c'est en... On garde, faut dire qu'on respecte un petit peu le direct, même si on enregistre la veille. Alors, pour revenir à ce que tu disais, moi, je parlais de l'armée, effectivement, qui est un grand financeur et qui veut s'approprier derrière les technologies, hein, pour son bien-être. Faut pas oublier que le rêve de toute armée, c'est d'avoir ses propres soldats robotisés et d'avoir le moins de pertes humaines. Parce que c'est ce qui cause, en fait, finalement, le débat et l'opinion publique. C'est les fameuses pertes humaines qui font que l'armée recule ou arrête des guerres. Et là, avoir je crois qu'on en a eu en plus des sujets justement sur de la robotique, effectivement, des super soldats et compagnie. Là, sur de la technologie pilotée par des humains, mais tranquillement chez eux, sans qu'il y ait de pertes, mais c'est tout bénef pour eux. Hein. Je pense qu'il va falloir bien surveiller tout ça, effectivement, pour être dans des sujets futurs, voir où est-ce qu'on en est avec tout ça.
Tout à fait. On n'a pas fini d'en parler.
C'est
et
sûr.
D'y réfléchir. Eh bien, on va continuer cette émission alors sur un tout autre sujet. Et Jean-Yves, tu voulais nous parler d'un livre.
C'est ça, ce soir, je vais vous causer d'un livre. Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, et son nom, Julien Dufresne Lamy, en est l'auteur. Et c'est édité par la maison d'édition Belfond. Alors, avant de vous en dire plus au sujet du livre, une petite présentation très rapide, comme à mon habitude, de l'auteur. Donc, Julien Dufresne Lamy, il a fait ses études à Lyon. Il vit désormais à Paris. C'est un auteur, un écrivain qui a 32 ans et il est déjà auteur d'un paquet de bouquins quand même, je trouve. Alors je ne sais pas quel est le rythme habituel des auteurs, mais alors là je trouve que, enfin bref, à 25 ans en 2012 donc, il sort son premier roman, Dans ma tête je m'appelle Alice, et en fait depuis il s'est jamais vraiment arrêté. Et ce que je trouve assez intéressant, je les ai pas lus les autres, mais c'est qu'il écrit des romans tant pour le public adulte que pour le public jeunesse. Et alors j'ai vite fait, en faisant des recherches etc, c'est vraiment des romans sur des sujets assez intéressants. Je crois qu'un de ceux que je cite, parce que justement je voulais vous citer deux titres de chaque catégorie, on va dire. Donc pour les deux derniers titres qu'il a édités pour le secteur jeunesse, on va dire, c'est Ma Story, Donc déjà, là aussi, il y a quand même quelque chose de très contemporain et très actuel.
On parle Jones, comme
c'est
on dit.
C'est ça, qui est sorti aux éditions Magnard. Et il y a Darling, hashtag automne, qui est sorti aux éditions Actes Sud Junior. Alors, je ne sais plus si c'est un de ceux-là, mais c'est vraiment dans le lieu, enfin, dans la jeunesse d'aujourd'hui, l'importance des réseaux, le danger des réseaux, mais pas que, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant en fait, d'amener de la réflexion et du roman sur ces sujets-là, et d'amener finalement les plus jeunes aussi à la réflexion. Et les deux derniers livres pour le public adulte, c'est Joli, joli monstre, toujours chez Bellefond, qui est sorti en 2019, qui lui parle, si je me souviens bien, du milieu de drag queen, voguing, en période VIH et après, je crois, de mémoire. Donc voilà, et le dernier qui est sorti, c'est donc celui dont je vous parle ce soir, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. Et donc, de quoi qui cause ce livre? Eh bien, 15 heures, nous sommes plongés dans la vie de Charlie, ado de 15 ans, qui attend avec sa mère la fin de l'opération de son père, Alice. Pendant les 4 heures que dure l'opération, nous serons avec lui, nous serons lui, cet ado dont la vie a tremblé un soir dans un camping à Noirmoutier. C'était les vacances de Pâques, il avait 13 ans, il était en 4e, et étudiait, entre autres choses, les séismes. Et je vais vous lire de temps en temps des passages du livre. Le séjour, pas exceptionnel. Il pleuvait à tout rompre et ma mère nous forçait à visiter des musées chelous gardés par des hommes à cap. Mon père était plus silencieux que d'habitude. Il était concentré, ailleurs. Son visage ressemblait à la mer après le passage de la grande vague. Mon père ne se moquait même pas de toutes ces torches médiévales sur les murs du musée du papier peint. Un début de soir sous la tente, mon père a avoué. Non, je recommence. Une fin d'après-midi sous la tente, papa l'a simplement révélé. Rupture brutale des plaques tectoniques. Cataclysme. Force 10 sur l'échelle de Richter. Dehors, tout était calme, étonnamment. Les gens buvaient toujours leur bière sous les auvents. Ils riaient en short, s'accouplaient ou bien chantaient, les doigts dans des bols de chips saveur chili. En bon scientifique, mon père nous avait employé les termes normatifs. Dysphorie de genre. Transidentité. Trouble de l'identité de genre. Non-congruence de genre. Ma mère n'y comprenait rien. Mon père était passé au plan B. Je suis une femme, à l'intérieur une vraie. Ce n'est pas vraiment grave, je t'aime, je vous aime, mais je n'ai jamais été un homme. Ma mère a pleuré à petite voix. Non, je recommence. Elle avait pleuré bruyamment et longtemps. Et ainsi, on va naviguer en fait entre l'attente à l'hôpital, avec notamment les rencontres qu'il y fera, les échanges avec sa mère, ainsi que les observations qu'il va faire à son sujet, et les souvenirs de ces 2 années écoulées depuis le coming out de papa à ce jour, et pendant lesquels, hein, ces 2 ans, Charlie aura tout noté, ou presque, 2 ans aux côtés d'un papa qui va grandir, qui va exister. 2 ans où il a aussi fallu faire face aux émotions, à l'impression finalement de ne plus compter parfois, alors qu'avant ce tremblement de terre, bah, son père et lui... ils étaient toujours complices, mais vraiment. Et c'est démontré, c'est expliqué dans le livre. 2 ans où il a fallu se confronter au regard et au jugement haineux de celles et ceux qui étaient des copains et des copines d'école, qui lui adressent des lettres d'amour, comme il les qualifie, en toute ironie. Hein. Et ça laisse forcément pas indemne. Les lettres d'amour, vous aurez compris que ce sont purement des lettres de haine violente. Et ça ne laisse pas indemne. Juste après les lettres d'amour, j'ai laissé sortir ma colère comme on dégueule la bile. J'en avais ma claque de ces cataclysmes. Moi aussi, je pouvais t'empêter, faire rompre la terre à coups de poings serrés. Et ça a commencé ce soir-là, quand j'ai levé la voix, alors que mon père demandait simplement si je voulais rendre visite à son ami Taylor sur l'île de Ré. Et ça m'a pris comme ça. Ça m'a pris comme un cri. Un son qui avant n'existait pas. Aussitôt, mes parents se sont tus. Ils l'ont fermé pour de bon. C'était à mon tour de saisir le bruit. Et plus je regardais mon père... Plus ma voix s'élevait dans ma caisse de résonance, je pensais à tout ce que lui nous faisait vivre depuis des mois. J'entendais les lettres d'amour le jour et ses triomphes le soir, et je fixais mon père, je fixais ma mère qui se tenait là, comme une statue oubliée sur un champ de mine autrefois beauté, et même ses yeux, à elle, ne m'ont pas calmé. C'était inarrêtable. Bordel, j'étais inarrêtable. Mon père rentrait à peine du boulot, il n'avait rien demandé. Il était fatigué, il avait ce corps épuisé, tiré comme une corde, mais j'en avais plus rien à foutre, moi, de sa fatigue, de son corps, de ses batailles et de ses passages à l'acte. Je ne pensais qu'à ma gueule comme il pensait à la sienne. Et voilà, je me disais, bien fait, chacun sa merde, chacun ses croisades. Et lorsque mon père s'est enfin levé de sa chaise, son maître 86 m'a fait face. Je me sentais plus immense encore. J'atteignais les hauteurs des cathédrales. Je pensais que mon père allait enfin m'en coller une, depuis le temps, me flanquer une droite bien tenace dans ma petite gueule de salopard. Mais à la place, il a tenté de me prendre dans ses bras. Je me suis débattu, l'ai repoussé violemment. Mon père me regardait et ma gorge brûlait. Mes doigts, mes yeux, je prenais feu et dans la flambée, j'ai réalisé qu'à la place de la colère, c'était ma peur qui incendiait. La peur de voir mon père massacré, immolé, isolé, et que c'était simplement ma voix qui disait une bonne fois pour toutes l'impérieuse nécessité de garder mon père en vie. Lui, ma mère et moi, perdus dans les flammes, qu'il était temps pour nous de nous sauver à jamais du monde et des lettres d'amour. 2 ans donc, à être témoin des tensions aussi entre son père et sa mère, à entendre des propos haineux de la famille catholique bien pratiquante de sa mère, ou à voir s'éloigner des amis de la famille. Bref, un ado malmené par la violence de ses tremblements de terre, une haine subie par Ricochet, haine que Charlie alimente lui aussi hein, pendant un temps à l'égard de son père, comme on a pu le constater dans la lecture. Mais ces 2 ans sont aussi marqués par des souvenirs plus positifs, comme des amis de la famille, qui restent des amis en fait, qui s'inquiètent pour Alice en fait, et pas que. Des rencontres avec des amis trans, et en particulier Capucine, la fille d'une amie trans à papa, et ça fait grandir, ça fait avancer. Et à ce sujet, il y a juste 3 lignes qui sont merveilleuses. Sous l'œil de Capucine, je croquais la glace à pleines dents. La jeune fille me souriait. Et dans son sourire, je ne comprenais pas encore qu'elle me disait. Il faut accepter de ne pas comprendre les choses, mais comprendre qu'elles existent. Et c'est vraiment, enfin, c'est voilà, ces 2 ans aussi d'amour, de construction, de confrontation. 2 ans de rendez-vous avec les docteurs, les traitements, le traitement hormonal, 2 ans dans une transition, avec les petits plaisirs de s'acheter des bijoux, des perruques, avec les interrogations aussi autour du prénom et de son acceptation, mais tout en conservant pour Charlie finalement une difficulté à remplacer le pronom personnel « il » par « elle » quand il parle de son père. Et justement, il y a un passage à ce propos. À la maison, nous n'avons pas adopté Alice tout de suite. Une semaine de mise à l'épreuve, hébergement temporaire. Alice a l'essai. Nuit 297. Alice a remplacé Aurélien dans les conversations. Et aucun tremblement de terre. Pas même une saccade à en faire teinter la vaisselle. Mais ma mère faisait des gaffes. Elle s'en mêlait les pinceaux. Et alors ça finissait par du « Auré Alice !» les fins de journée éreintées et nous éclations de rire. Mon père le premier. La vanne a duré plusieurs soirs jusqu'à ce que ma mère me souffle à l'oreille qu'Auré Alice devait tomber aux oubliettes avant de vexer mon père. On a donné une chance à Alice. On l'a accueillie. Jour après jour, Alice sortait de nos bouches. On lui demandait du sel à table, l'endroit de la dernière facture d'eau et ce qu'elle pensait du réchauffement climatique quand on voyait des images des ours déboussolés sur 20 cm de glace, 20 cm carrés de glace à la télé. Alice était là, avec ses opinions, ses certitudes, sa connaissance des tiroirs où les factures aimaient échapper à la vigilance de sa mère, de ma mère. Parfois je me disais, et si ça colle pas? Si la grève du prénom ne prend pas? Est-ce que j'oserais dire à mon père, Alice, j'y crois pas, t'as rien d'une Alice. Les Alice ne t'arrivent pas à la cheville. En douce, j'en ai parlé à ma mère. Si tel est le cas, on changera, on regardera les listes des prénoms féminins 2020. Ma mère se trompait. Il suffisait de voir mon père. Elle était si heureuse maintenant qu'elle s'appelait Alice. Rien ne l'aurait fait changer d'avis, ni moi, ni ma mère, ni les 30 000 autres prénoms de la Terre. Donc voilà. Et enfin, il y a aussi la rencontre de Marin que Charlie fait justement dans cette salle d'attente. Là encore, on avance. Enfin, il avance, on avance finalement vu qu'on est lui et qu'on est avec lui. On évolue, on s'interroge, on se parle sans gêne, mais pas sans respect. Une rencontre qui est également décisive dans l'évolution de Charlie, qui voit le propre cheminement de son père qui est une femme qui marche, pour reprendre une belle image en fait qu'il utilise. Bref, je pourrais vous parler encore longtemps et je pourrais vous lire, je pense, après tout le livre, tellement il me plaît vraiment. J'ai trouvé ce livre formidablement humain, pas manichéen. Et avec tout ce qui fait de nous, en fait, ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres réfléchis, des êtres d'émotion, des êtres de colère, de peur et aussi d'amour. Et je trouve que c'est vraiment magnifiquement retranscrit. Et le tout en parlant de ce qu'est une transition, parce que vraiment, il va en parler. de ce que peut être en tout cas une transition. Hein, parce que là aussi, pas de schéma global, pas de parcours uniforme. On parle là du parcours d'Alice, qui a 40 ans, une épouse et un fils. Ok. Donc voilà. Et je trouve aussi intéressant, finalement, d'avoir pris le pari de parler d'une transition par le regard, le vécu du fils d'une personne qui fait la transition. Je trouve que vraiment, c'est hyper intéressant. Et j'aime aussi la construction du récit. Hein. Ces flashbacks et ces retours au réel qui parfois ça fait vraiment mais une demi-page, même pas. Hein. Mais je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très vivant et une certaine forme, une belle matérialisation finalement de la tempête des idées. Quoi. Et c'est, bref, je vous le conseille vivement. Ça s'appelle « Mon père, ma mère, mes tremblements de terre » de Julien Dufresne Lamy. Et donc voilà, je ne sais pas si vous aviez autre chose à dire, mais vu qu'on est pris par le temps, non, je déconne, mais si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas.
Non, moi, je dirais que ça donne très envie de le lire.
C'est clair. Tu avais l'air d'être tellement passionné par livre, tu as dû le lire d'une traite.
En presque une traite, mais parce que j'avais pas le temps, mais ouais, ça se lit très facilement. Vraiment, il y a des moments, j'ai lu, j'étais quasi les larmes aux yeux, quoi. Il y a une sensibilité dans le livre. Il y a tout ce truc, tu sens cet enfant déchiré finalement, et on le sent bien dans les extraits aussi que j'ai pu lire. Voilà, c'est toute la complexité de la vie en fait. C'est magnifique. Enfin, vraiment,
Moi, je reste persuadé que les romans, c'est parfois des bons outils de philosophie. Donc voilà, lisez, ça fait du bien. Et ça vous aide à un petit peu à remettre votre cerveau en route. Et c'est bien des fois de s'interroger sur des esquifs où on ne serait pas allé, comme dirait certains vieux philosophes que j'aimais beaucoup, qu'on appelle Socrate. Voilà.
Il n'y a pas de conneries, celui-là.
Donc voilà.
Bah, si vous avez rien à rajouter, on passe à la musique.
Et y a, tu veux rien dire sur la musique avant qu'on la mette ?
Oh, je le dirai après.
Ah, tu le diras après. Bon, ok. Il est comme ça. Allez, à tout de suite.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie, bien évidemment, sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter John Coltrane avec le titre Countdown. Alors pourquoi ? C'est parce que Alice aime beaucoup John Coltrane. Et donc voilà, je trouvais que c'était une continuité du roman via la musique. Voilà, c'est tout.
C'est pas vraiment ton choix, alors, du coup, musical.
Bah si, parce que justement, je vous laisse cette continuité-là, en fait, pour continuer de faire exister, on va dire, Alice et tout ce roman-là. Eh bien, c'est la suite, c'est MK qui prend la suite.
Effectivement, là, on est presque à un an, j'allais dire, depuis ce premier confinement qu'on a eu l'année dernière. D'ailleurs, à ce propos, on n'a pas souhaité la bonne année à tous les auditrices et aux auditeurs.
C'est vrai.
C'était, oui. C'est la première émission de l'année 2021. Ah ben, on a démarré, hein, dis donc.
Et ben, bonne année à tout le monde.
Hein, voilà, bonne année.
Ils n'ont qu'à écouter jusque-là, sinon ils n'auront pas notre bonne année, puis c'est tout.
Et oui, il faut le mériter. C'est un troll, tu sais, c'est les petites coquilles que tu laisses dans les épisodes, dans les livres, pour voir s'ils suivent les gens. Bonne année à tous, hein, d'ailleurs, au passage. Ben, moi, je disais, donc là, ça fait presque un an, et puis beaucoup de conséquences, hein, avec ce confinement, ces déconfinements, ces couvre-feux, effectivement, et cette propagation du virus qui ne cesse de continuer, malheureusement, et avec des habitudes qui ont beaucoup changé, et l'impact sur la vie sexuelle. Et moi, j'ai donc intitulé donc, mon sujet « Une vie sans sexe ?» Point d'interrogation. Alors, pourquoi en mode interrogation? Parce que, en tout cas, c'est le temps que ça m'a paru depuis ce fucking Covid qui est apparu, occasionnant donc dans ce sillage, ce chamboulement total sur nos habitudes de vie. Et oui, ça m'a paru une éternité. Alors, pas qu'au niveau sexuel, hein, on est d'accord. Mais là, c'est sur ce point-là que je m'attarde. Moi qui avais une vie sexuelle libérée et très active, tant au niveau quantité que qualité, je me vois actuellement forcé de freiner des quatre fers et de freiner mes ardeurs pour le bien commun de tous. Évidemment, afin de limiter la propagation du virus. Distanciation oblige, et puis je me vois mal porter un masque, me mettre du cellophane un peu partout, des gants, mettre une combinaison pour pratiquer le fameux jeu de la bête à deux dos.
Ça peut être un triple la combinaison, hein, mais c'est un autre problème.
J'ai pas fini ma phrase à deux dos, trois dos aussi, ça marche. pire encore, on pourrait se tromper par exemple sur les gels, mettre avec le gel lubrifiant et le gel hydroalcoolique. Très attention, je vous laisse imaginer la scène.
Ça peut piquer.
Alors oui, ben oui, je suis célibataire, hein. On pourrait croire que c'est pour ça que j'ai une vie entre guillemets comme ça. Et on pourrait croire aussi que les célibataires sont les grands frustrés de cette histoire. Mais en réalité, les couples, les troubles aussi, hein, ou autres, souffrent aussi. Alors qu'il soit exclusif ou ouvert, hein, personne n'y échappe. Et l'impact est bien présent encore maintenant, même si on pourrait croire que l'on est déconfiné et donc avec des libertés de mouvement. Alors, il ne faut pas s'imaginer que le sexe, c'est uniquement lié aux libertés de mouvement, hein, avec la possibilité de voir un tel ou un tel. La vie sociale en a pris un coup. Les lieux de drague et de rencontre, les bars et les restos, les lieux culturels, tous sont fermés et cela nous pousse à nous cloîtrer chez nous, à n'effectuer que le fameux métro-boulot-dodo. La pandémie nous gâche décidément tous nos plaisirs, pas seulement pour des questions d'isolement social, mais de santé mentale. Il faut savoir que la sexualité joue un rôle essentiel, hein, dans la santé mentale. Hein. Il y a un effet positif, hein, avec les rapports intimes, notamment la part des orgasmes qui agissent sur la pression artérielle, par exemple, le cœur, le niveau de stress, etc. Une sorte de bien-être. Et cela nous procure donc une telle satisfaction. Et ce n'est pas étonnant que les hormones libérées, hein, je vais en citer plusieurs, il y a la sérotonine, il y a l'endorphine et puis tant d'autres, sont appelées aussi des hormones du bonheur ou du plaisir. Alors, comme je le disais juste un peu avant, pour les célibataires, c'est en effet compliqué. Alors, pour des raisons pratico-pratiques, hein, les déplacements et tout pour aller se satisfaire avec une tierce personne. Mais la situation de nombreux couples pour qui le fait de vivre à deux n'est pas une garantie d'une vie sexuelle pratique. D'une vie sexuelle épanouie. Bah, il y a les embûches classiques, hein, c'est-à-dire le stress, le problème de communication, la fatigue, toujours voir la même personne, auxquelles se sont ajoutés donc le confinement et la promiscuité forcée. On peut citer par exemple le fait qu'un partenaire, sur une semaine entière, porte le même jogging, voire le même slip ou la même culotte. Ça dépend chez qui. Vous voyez la scène?
Bah, on l'attend surtout.
Pour ceux qui aiment les odeurs. Enfin bref, la question d'ailleurs qui peut nous venir à l'esprit, hein, d'ailleurs pour ça, c'est comment vivre des moments passionnés si l'un ou l'autre, est à tout moment à portée de main dans le même environnement. Bon, moi, pour le coup, je ne suis pas sexologue, hein, je n'ai pas de solution miracle à vous donner, mais bon, je me dis peut-être que pimenter le sexe avec des jeux de rôle, par exemple, ça peut être sympa, non? Enfin, blague à part, Il y a ceux pour qui l'absence aussi de rapport sexuel est un choix. Alors, qui ne date pas de la pandémie, hein, bien sûr. Hein. Donc, et il y a aussi pour ceux, bah, c'est de façon involontaire. Alors, petit aparté, là, rapidement, je fais à ne pas confondre avec les incels. Ce groupuscule de célibataires involontaires dont Fab nous avait parlé.
Ah oui, les petits fachos, là. Ouais, non, ceux-là, on ne va pas les... Non.
Non. Même d'écouter cette causerie de numéro 275 du 18 novembre 2018. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Moi, je ne parle pas de ces célibataires involontaires. Non, là, je parle des célibataires involontaires. Enfin, bref. Alors, tout ce que je viens de dire, bien sûr, c'est avec la rigolade, avec quelques petites vérités, mais tout ceci est à prendre, bien sûr, avec des pincettes. Hein. Voilà, il faut tout contextualiser, bien évidemment. Il ne faut pas en faire une généralité. Et là, je ne décris pas du tout une norme. Voilà. Nous vivons déjà sous le joug de différents diktats. Et voilà, juste pour ajouter qu'il ne faut pas oublier que nous vivons dans une société, en fait, tellement sexualisée que les gens, en fait, se sentent anormaux s'ils traversent une période sans sexe. Donc, la vie sexuelle est devenue un baromètre de la réussite. Donc voilà, juste pour rassurer, hein, c'est pas parce que je parle d'un article là de mon sujet d'une vie sans sexe et j'en fais genre une apologie ou j'essaye de me faire plaindre parce que je n'ai pas eu de rapport. Non, loin de là, c'est une boutade. Voilà, faut pas s'attacher du tout à mon intro. Je vois un petit doigt levé.
Oui, si vous voulez joindre MK, c'est le 06. Parce qu'il a besoin là. Hein. Donc, ouais. Si on vous écrivez à la causerie cadu@gmail.com, on fera suivre.
On transmet.
Non, voilà, il ne faut pas s'attacher à ça, en fait, à ce baromètre de la réussite. Hein. Le sexe n'est pas un baromètre. Si mon intro vous a semblé présomptueuse, effectivement, ou déplacée, voire choquante, hein, là, il s'agissait uniquement d'humour, hein, bien sûr. J'adore voir mes acolytes se pouffer de rire, hein, surtout Jean-Yves, avec son rire légendaire. Allez, fais ton rire légendaire.
Il n'est pas sur commande, non, mais oh.
Ah, alors. Et puis,
c'est facile.
Si ça peut décrocher aussi un rectus chez vous, les auditeurs, chères auditrices, j'en serais ravi. Alors, pour reprendre mon sujet un peu plus sérieusement, là, je vous balance quelques chiffres rapidement d'IFOP, hein, qui ont mené une enquête à l'issue du premier confinement. Pour 3 Français sur 10, environ, en fait, le sexe a pu être une réponse comme un antistress. Donc, comme quoi, ce n'est pas quelque chose de très majoritaire au final. Voilà. En revanche, le nombre d'abstinents a presque été multiplié par 2. On voit que les pratiques ont évolué aussi. La proportion des Français n'ayant pas eu de rapport sexuel dans le mois précédent, l'enquête est passée donc de 26 à 44%, qu'ils soient célibataires ou en couple. Et le taux de satisfaction sexuelle moyen, hein, ça aussi, ça se mesure aussi. Ce taux a perdu donc de 7 points entre le début et la fin du premier confinement. Donc, on voit qu'il y a des rapports, entre guillemets, sexuels qui ont beaucoup diminué, mais le rapport de satisfaction a beaucoup moins diminué par rapport à ça. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment faire de lien de si on peut exprimer ça par quelque chose de malheureux ou pas. Finalement, on pourrait penser que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Oui.
Bah, en fait, il y a un truc que souvent les gens oublient, c'est que la sexualité, elle est aussi liée à ton état d'esprit et que, qu'on le veuille ou non, une pandémie mondiale, en général, ça a tendance plutôt à stresser les gens. Et quand on est stressé, contrairement à ce que les films hollywoodiens cherchent à nous faire croire que dès que tu es stressé, tu as envie de queuter, bah, c'est pas vrai. En fait, globalement, quand tu es stressé, tu es plutôt mal à l'aise et tu es plutôt souvent mal dans ton corps ou mal dans ta vie. Et c'est pas la sexualité qui va arriver en premier comme des fouloirs, quoi. Donc, c'est là, en fait, le truc, c'est qu'on peut tout à fait comprendre que dans cette période-là, bah, même chez les couples établis, même chez des gens, voilà, il y a eu une diminution de la sexualité. C'est parfaitement logique, en fait.
Non, c'est une sorte d'évolution, et puis les choses s'adaptent. Pour continuer, du coup, au niveau de mes chiffres, en expliquant aussi en partie ce que je venais d'énoncer juste avant, en juin dernier, 11% des Français souhaitaient prendre des distances avec leur conjoint, quand 4% voulaient surtout tous s'en séparer. Donc, c'est en fait ça. J'expliquais tout à l'heure qu'effectivement, la pandémie avait agi sur la vie sexuelle et la vie amoureuse, entre guillemets, des personnes en couple ou pas. En fait, ça a été simplement soit un accélérateur, soit un révélateur de ce qui se passait effectivement dans les couples. Et les chiffres donc le confirment. Et on ne voit pas forcément un grand malheur là-dedans. non, mais dans le sens où effectivement... c'est pas une catastrophe finalement ce qui vient d'arriver et les gens évoluent et s'adaptent.
Je dis. Pardon, moi je t'ai coupé. En même temps, il faut voir par exemple que ça dépend des pays aussi. Mm-hmm. Parce que les pays en fait où le divorce était traditionnellement pas habituel, alors qu'en France le divorce est quand même notamment dans les grandes villes assez habituel, un couple sur deux, hein, donc voilà. En fait, l'épidémie, elle a été aussi révélatrice du fait que les gens ont découvert qu'il y avait des lois qui leur permettaient de divorcer, et notamment les femmes, et qu'il y a eu dans certains pays des vagues de divorces après les premiers confinements. Mais c'est sûr que dans un pays où le divorce est installé, on va moins avoir cette différence de chiffres, parce que si on doit divorcer, on divorce, quoi.
Exactement.
Et donc, MK, est-ce que tu avais d'autres chiffres à nous donner ?
Oui, un dernier, et puis je ne vous embête pas plus, là, on parlait des divorces. Du coup, à l'inverse, hein, pour ceux qui allaient bien, c'était l'occasion aussi d'encore d'aller mieux. Et donc, en fait, un Français sur 10 s'est même senti affectivement, amoureusement et sexuellement beaucoup plus proche de son partenaire, notamment dans les couples jeunes et les couples sans enfants. Vous l'aurez compris, effectivement, les enfants empêchant forcément toute vie intime possible.
en tout cas, ils réduisent les possibilités.
Oui, aussi, on peut dire ça. Alors là, vous allez devoir m'aider puisque j'ai un mot qui est difficilement prononçable. Vous allez dire si je le prends. À l'inverse, ceux qui libidinalement, parlant, sont encore les moins sortis, les moins bien sortis, sont les célibataires qui se sont rués donc du coup sur les applis de rencontres. Vous imaginez bien. Donc les applis d'échange et de rencontres forcément ont explosé. Hein. Applis qui elles ont certainement rendu grâce au dieu Covid. forcément, il y a eu un dieu pour eux. De nouveaux inscrits en pagaille, des temps de conversation qui s'allongent grâce à des offres aussi de bienvenue. Hein. Ils sont pas cons hein, là-dedans. Des packs premium à moins 50%, des abonnements gold au prix du premium, enfin bref, en veux-tu, en voilà. Donc au premier confinement, on avait Tinder, hein, le géant des applis de rencontres, qui affichait un record historique de fréquentation avec 3 milliards de personnes connectées dans le monde en même temps.
Ah ouais.
En un temps record, bien sûr.
Un humain sur deux quand même, hein, c'est énorme.
Ouais, 3 milliards, oui, c'est bien ça, de connectés.
Wow.
Après, vous savez, avec les conversations qui s'allongent, il y a peut-être moyen qu'ils étaient 3 milliards à un moment donné, à un instant T. Ah oui, c'est énorme, hein, je trouve. Une semaine plus tôt, c'était le Français Mythique qui a enregistré sa deuxième plus forte période d'activité de l'année. Et puis, il y a cette fameuse application ou ce site hein, qui est Gliden, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce site de rencontres pour célibataires, hein, qui ne sont pas vraiment célibataires en vrai. En fait, c'est les tout premiers sites de rencontres extra-conjugales qui a fait aussi un bond en mars de 170% par rapport à l'année d'avant avec la même période.
Il y a un truc qui est assez fou, c'est que ces sites, ils ont même rendu payant quelque chose qui était avant gratuit. C'est la sexcam, en fait, le sexe par caméra interposée. Parce qu'en fait, ils ont mis en place ce qu'il n'y avait pas sur ces sites en général, enfin sur ces applis. Ils ont mis en place l'option discussion en vidéo qui permet de faire plus que de discuter, soyons très clairs. Et en fait, ils disaient, ça leur a amené des nouveaux clients qui n'avaient pas l'habitude de le faire par d'autres outils, genre ce qu'on utilise aujourd'hui pour enregistrer la causerie. Mais voilà, et du coup, ça a amené une nouvelle forme de clientèle et une nouvelle forme de sexualité, finalement.
Oui, et grâce à quoi ? Grâce à ces offres premium à moins 50% ou des offres, vous savez, les fameux premiers mois gratuits qui permettent justement d'alpaguer ses premiers clients et ensuite de le faire découvrir des fonctionnalités au départ gratuites mais qui ensuite deviennent payantes pour pouvoir mieux les attirer et puis les fidéliser. Et d'ailleurs, en parlant de fonctionnalités… Ah bah totalement. D'ailleurs, une petite anecdote par rapport à une fonctionnalité, chose que je ne savais pas. Vous saviez qu'il y avait donc cette fonctionnalité qui s'appelle sortie de secours. En fait, c'est une fonction qui permet de se déconnecter très très vite en secouant juste son téléphone si jamais son conjoint confiné venait de se pointer dans la pièce.
C'est long.
Ah mais non, véridique, véridique. Ah mais oui, effectivement. Finalement. Je pourrais en parler pendant des heures, hein, sinon je faisais pas mal de recherches pour trouver ce sujet. Ce qui a été compliqué en fait, c'est qu'il y a plein d'études en vrai sur ce qui a été fait justement sur la sexualité, sur les couples heureux, malheureux, et puis des articles aussi qui ont été faits, et aucun en fait ne tient les mêmes propos. En fait, il y a tout et son contraire, dans le sens où tout se valent. Tout dépend en fait du point de vue de l'auteur, de ce qu'il veut défendre, et puis bien sûr du point de vue du lecteur, de ce qu'il a envie de lire et de sa propre expérience, effectivement, là où on peut se retrouver sur des articles. Donc, je dirais que finalement, ce qu'on retient, c'est que le Covid n'a pas tué le sexe, hein. Je ne pense pas qu'on soit passé d'une période où la vie sexuelle avant était débordante et épanouie à une période où tout a été réduit à néant, hein. Alors voilà, il y a bien sûr eu un impact sur notre vie sexuelle, c'est indéniable, hein, puisqu'on a eu quand même modifié nos modes de, nos, 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 notre mode de vie. Mais voilà, nous sommes un peu comme ces pinsons de Darwin, vous savez, nous avons chacun évolué et nous sommes tous adaptés en fonction donc de notre environnement. Et je vous laisse sur ça.
Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'on refera des. Enfin, de toute façon, on fait régulièrement des sujets autour de la sexualité dans la causerie et on en refera. Mais je pense qu'un jour, on se penchera sur est-ce que finalement, on est dans une société en dehors du Covid où la sexualité est aussi épanouie que ce qu'on essayait de nous vendre en disant le Covid a tué la sexualité. Moi, je reste persuadé que ce n'est pas le Covid qui est la première cause de mort de la sexualité. Je pense qu'il y a d'autres carcans bien plus puissants que le Covid. Hein. On va en citer deux, les religions et l'État.
Religion.
Voilà.
Elle est là.
Et l'État, parce que finalement, quand on met des règles de sexualité, des règles de couple, ou quand on met des règles de ce qu'est la sexualité correcte et incorrecte, on voit que de toute façon, c'est les premiers carcans. Et qu'à un moment donné, j'ai l'impression aussi que cette période-là, et c'est très bien, MK, que tu dises que c'est une évolution et qu'on voit aussi dans les chiffres que finalement, ça n'a pas changé énormément les choses. On essaye de nous vendre un petit peu l'idée que quand on sera revenu à la normale, il faudrait arrêter de faire zizi pampan partout, partout, et qu'il faudrait revenir un petit peu à la morale, c'est bien. Est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui orientent ça en disant ce qu'on avait avant le Covid, c'était déjà merveilleux, donc quand on l'aura retrouvé, il ne faudra surtout pas continuer à le faire évoluer. Moi, je crois qu'au contraire, il faut qu'on fasse évoluer la liberté sexuelle des uns et des autres, plutôt que de rester sur ce qu'on avait juste avant le Covid. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà.
Oui, en fait, il n'y a pas de normes à respecter au final.
Exactement. Il faut continuer à interroger en fait cette notion-là et la notion de liberté.
Ok, j'avais rien compris.
J'avais pas compris non plus.
Tu réécoutes la émission.
Pour faire simple, pour au cas où les auditrices auditeurs n'aient pas compris non plus, c'est-à-dire qu'il y a plein d'articles qui sortent, c'est ce que disait MK, où on essaye de nous dire que avant le Covid, hors Covid, on avait tous une sexualité merveilleusement
Ok.
épanouie, on était tous hyper libres et tout allait bien. Or en réalité, c'est pas vrai et on le sait. Et je pense qu'il faut se méfier aussi de cet effet de dire quand on sera sorti de cette période de Covid, il faut revenir à la même chose que ce qu'on avait avant. Je
Ok.
pense qu'il faut continuer à combattre les carcans.
Oui.
C'est ça que je voulais dire. Je suis plus
Après, moi,
clair?
oui.
Oui. Ouais.
Après, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est justement sur celles et ceux qui fréquentaient déjà ces sites avant le Covid, j'en suis, et ceux qui continuent de le faire aujourd'hui. Enfin, y a quand même, je trouve étonnant que y a eu très peu, en fait, finalement, de sensibilisation là-dessus, en fait. C'est-à-dire que on est passé de ouais, tu veux avoir une sexualité, ah, il faut plus du tout avoir de sexualité avec quelqu'un d'étranger. Alors, enfin, que tu ne connais pas et qui tu ne vis pas, etc., etc. Donc, moi, je peux l'entendre, sauf qu'après, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que dans d'autres pays, je prends l'exemple, je crois que c'est le Canada, où une ministre, en fait, a dit bon, en fait, pour la sexualité sous Covid, il faudrait faire comme ça, porter un masque, mais comme tu disais, MK au début, quoi. Alors, après, effectivement, on peut ne pas vouloir s'emmerder avec. Mais moi, j'ai juste envie de dire, si vous continuez d'avoir des plans. Dans cette période, vraiment, faites attention. C'est pas anodin ce qui se passe. Prenez des protections. Limitez-vous peut-être dans les pratiques et peut-être aussi réinventer d'autres pratiques. Ça peut aussi être très bien d'avoir deux ou trois personnes qui pratiquent de l'onanisme, du plaisir individuel, ensemble, que chacun garde on va dire, ses microbes à lui, rien qu'à lui, pendant cette période-là. Faites juste quand même gaffe que 5 minutes d'amour ne vous emmène pas vers la mort, vous ou des gens dans votre entourage.
C'est un peu aussi le principe de mon sujet. Voilà, c'était pas non plus de dire qu'il fallait absolument combattre ce Covid, justement, et de se dire mince, le Covid nous empêche d'avoir des relations sexuelles. Le but, c'était pas de dire ça, mais c'est comment notre sexualité est vécue là-dedans et n'est pas sur la quantité, en fait, justement, de partenaires, quoi qu'il en soit. Alors que je dirais une petite anecdote, en Belgique, les autorités, pardon, ont autorisé ce que chacun ait le droit à un terme que je n'arriverai pas à le citer puisque c'est en flamand,
Flamand.
c'est ça? Non. Quelle est la version pas française de la Belgique?
Le flamand.
Le flamand, effectivement, un mot flamand, en tout cas flamand d'âne, qui en fait correspond à un sorte de body friend pour lequel est légalement autorisé à aller visiter. Alors, on ne dit pas si c'est un sex friend. Il peut être ce que l'on veut en fait, mais légalement, on a le droit de mettre sur son attestation aller fréquenter un sorte de sex friend finalement. Et ça, c'est légal. Au Danemark, c'est au nombre de 2. En Belgique, c'est au nombre de 1. Et voilà, après, effectivement, il faut faire très, très, très attention, comme tu dis. Et la pratique de l'onanisme aussi, qui est quelque chose qui peut très bien se faire. Et puis, c'est une expérience, en fait.
Oui, oui. Mais ce qui est par contre marrant, c'est qu'effectivement, en France, pas un mot sur la notion de sexualité, quoi.
C'est tabou.
C'est parce qu'on était tellement libre avant le Covid.
Oui, c'est ça.
Vous voyez ce que je voulais dire? Oui, c'est oui, ça oui. Que je voulais dire. C'est qu'en fait, on continue encore une fois à taire un sujet qui, à mes yeux, est central et hyper important. Oui. Voilà. Et en parlant d'onanisme, un peu de musique?
Exactement.
Diamant, gloire à l'amour solitaire.
Et vous êtes bien de retour sur la causerie sur Radio Canu au 102.2. Et là, vous venez d'écouter un titre que j'adore, Diamant de Bagarre.
Moi, j'adore aussi. Je n'ai pas arrêté de me le mettre depuis que tu l'as transmis. Il est énorme. Oui, oui.
Belle découverte, effectivement, en faisant des tapés de recherche. Bon, voilà, avec le mot-clé Google, bah, là, je vais avoir plein de pubs là-dessus maintenant sur Google.
Ou dans la masturbation. Bah, c'était très bien.
Et ben, on arrive à la fin, presque.
C'est ça. C'est ça, on arrive à la fin de cette causerie. Encore une fois, bonne année à tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'on a oublié de le dire au début, mais ça vous oblige à rester jusqu'à la fin. Et ça, c'est bien. C'est... Ouais.
Et peut-être s'excuser par avance pour les petits désagréments techniques, ouais. Éventuellement, si vous les entendez, on va faire au mieux en sorte que il y en ait le moins possible. Hein. Malheureusement, ce sont les aléas de l'enregistrement Internet. À distance et de l'Internet, effectivement, Clara.
C'est voilà. Ça.
Espérant vous retrouver, se retrouver dans les studios. On ne sait pas quand.
Bien, mais on sait vraiment pas quand.
On ne sait pas quand, mais il faut qu'il lève le confinement.
Je voulais rajouter, quand on souhaite bonne année, tout ça, on se leurre pas. On sait très bien que les choses ne vont pas changer en un jour. On le sait très bien. On peut quand même se souhaiter que les 364 ou 65 ou 66 qui arrivent soient remplis de luttes, d'amour, de colère, de confrontation, de débats et d'ouverture d'esprit aussi. Ça peut être sympa. Donc,
et
voilà.
De causerie.
Et de causerie, bien évidemment.
Et de plein de petits plaisirs.
Oui. Oh oui, même des grands.
Oui.
Seul ou à plusieurs.
Et plus c'est petit, plus c'est mignon, il paraît.
Et surtout, ne perdez pas votre sens de l'humour, parce que je trouve que notre monde en ce moment manque de sens de l'humour. Donc il faut garder cette envie de rire et de rire de tout, y compris du malheur, parce que c'est comme ça qu'on le met à distance. Voilà. C'est la dernière de l'année, j'allais dire, pas du tout, c'est la première de l'année.
On est bientôt en 2022, effectivement.
Le mec qui s'est plus bienvenue en 2022. C'était donc la première émission de l'année et c'est maintenant la fin de la causerie et on va se quitter avec un titre. Qu'est-ce que c'est donc que ce titre ?
C'est clair.
Ben, c'est un titre d'un groupe ardéchois qui s'appelle Skok Me Crazy et le titre.
C'est skank.
Ça... Skank. Ah, bah ça va.
Non, mais parce que skanké, c'est un mot très reggae. Tu vois ?
Ouais, bon, bah, je ne suis pas spécialiste. C'est pour faire un petit coucou à qui se reconnaîtra. Et donc, le titre, c'est Soul Symphony.
Et c'est du reggae, donc.
C'est du reggae, c'est ça, oui.
Ah, c'est classieux. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien.
C'est ça.
Avec plaisir.
Sûrement avec des invités.
Normal,
tout va bien aussi.
Tout va bien, oui.
Voilà. Donc des bisous et à la semaine prochaine.
Bonne semaine. À la semaine prochaine.
Au
bon dimanche. Skank me crazy. We'll be right back.